Bonjour à tous et à toutes. C'est la fin de notre série en Romains aujourd'hui. C'est étrange de penser que Léon et moi nous avons prêché toute cette série et l'entièreté de la série a été prêchée dans le confinement et même la fin, aujourd'hui la conclusion, va être prêchée dans le confinement. Ce n'est pas la fin du confinement, nous devons nous préparer à être à nouveau en ligne pour les prochains dimanches et à suivre le culte en ligne grâce à notre site web. Mais nous allons pouvoir le faire grâce à ces enregistrements. Quand j'étais jeune, on m'a dit que j'ai une belle voix pour la radio. J'ai tout de suite compris que ça voulait dire que j'avais une tête qui n'était pas bonne pour la télévision. Mais en tout cas, je suis content de pouvoir faire ces enregistrements, même si bon, il y a des avantages. On ne voit pas les personnes à qui on prêche. On prêche en espérant que vous serez là à écouter ces messages. Mais quand on peut se voir le jeudi soir, par exemple, là, ça nous a fait du bien de pouvoir se voir et de savoir qu'il y a des personnes qui écoutent effectivement ces enregistrements. Mais il y a des avantages aussi à avoir des enregistrements, c'est que on peut écouter plusieurs fois et on peut entendre ce qu'on a loupé la première fois, ou on peut même appuyer sur pause afin de bien prendre des notes, afin qu'on puisse bien saisir le sens du message. Sans plus tarder, je vous encourage à ouvrir votre Bible à Romains chapitre 16. Merci à Pierre qui met les paroles sur l'écran. Je vais les lire et puis je vous encouragerai à garder la Bible ouverte devant vous pour suivre le développement. Ce passage, en fait, est très peu connu. C'est pas un des chapitres les mieux connus de l'Épître aux Romains, mais quand même tellement riche. Chrysostome a trouvé ce chapitre instructif parce qu'il encourage des relations personnelles d'amour dans l'Église. Et moi, j'ai intitulé ce message « Le travail en équipe pour le Seigneur et l'Évangile ». Lisons. Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est diaconesse de l'Église de Cancrée. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. Saluez Prisca et Aquila, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épainette, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres, et ils se sont même convertis à Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur en Christ, et mon bien-aimé Stachys. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de l'entourage d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon compatriote. Saluez ceux de l'entourage de Narcisse qui appartiennent au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui travaillent pour le Seigneur. Saluez la bien-aimée Perside qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, celui qui a été choisi dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, ainsi qu'Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Les églises de Christ vous saluent. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon collaborateur, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes compatriotes. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, qui m'accueille et chez qui toute l'Église se réunit, vous salue, Eras, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Cartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen. Dieu peut vous affermir, selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'ils obéissent à la foi. À ce Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles. Par Jésus-Christ. Amen. Quand nous lisons ce chapitre, ça ressemble au courrier de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et en effet, c'est le cas. Ces paroles ont été écrites par quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas écrit d'abord pour nous. Et d'ailleurs, c'est le cas de la majorité des livres du Nouveau Testament. C'est qu'ils sont des lettres qui ont été écrites par un individu ou un petit groupe d'individus envers un autre individu ou un autre groupe d'individus bien spécifiques à un moment de l'histoire. Et cela souligne que ce que nous lisons ici, l'Épître aux Romains, n'est pas simplement un livre atemporel, mais un livre historique qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité à un moment spécifique. Alors, leurs noms, évidemment, ne nous sont pas familiers, et on pourrait même dire que certains noms, certains prénoms ressemblent à des maladies. On imagine quelqu'un dire qu'il a une tryphose ou qu'il a une asyncrite aiguë. Mais si nous changeons les noms, si nous lisions ce passage avec d'autres prénoms, peut-être qu'on le lirait avec d'autres yeux. On lirait ceci. Je vous recommande notre sœur Martha. Aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup. Saluez Nathalie et Jean-Marc, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Saluez Marie-Christelle, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Désiré, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Pierre, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de l'entourage de Juliane, qui appartiennent au Seigneur. Saluez Leda et Lila, elles qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Léon et Olivia, ainsi que Junior et tous les saints qui sont avec eux. Je ne vais pas continuer parce que je pourrais faire des jaloux. Je ne veux pas faire des jaloux de ceux qui ne sont pas mentionnés. Mais vous comprenez cette lecture autrement, n'est-ce pas? Quand on l'entend comme ça. On se rapproche alors de l'effet que ça a dû produire, cette lettre, quand elle était lue au début à ces croyants à Rome. Et à travers ce chapitre 16, on va être encouragé à trois choses. D'abord, attachez-vous à ceux qui croient. Attachez-vous à ceux qui croient. On voit bien la diversité des destinataires de la lettre. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Paul connaît tant de gens? Comment est-ce qu'il connaît tant de gens, vu qu'il n'avait pas encore été à Rome? Mais il les connaissait parce qu'il les avait rencontrés ailleurs, ou ils avaient voyagé, par exemple. On sait que Priscille ou Prisca et Aquila avaient voyagé jusqu'à Corinthe et avaient rencontré Paul là-bas. Et puis ils étaient retournés à Rome. Et d'autres, ils connaissaient quelques noms de personnes qui avaient fini par s'établir à Rome. Il mentionne 26 individus. Je ne vais pas les commenter tous. 24 sont nommés, ou prénommés. Et on voit qu'il y a des hommes et des femmes qui sont mentionnés. Pas que des hommes. Il ne faut pas penser que Paul était opposé aux femmes, comme ça se dit parfois. Non, l'apôtre était quelqu'un qui reconnaissait la valeur des femmes et ce qu'elles pouvaient apporter au ministère. Et là où il était, il y avait souvent des femmes qui travaillaient avec lui dans le ministère chrétien. Et c'est le cas de plusieurs femmes qui sont mentionnées ici. Je mentionne particulièrement Prisca et Aquila. Alors, Prisca, c'est la femme et Aquila, c'est le mari. C'est un couple et la femme est mentionnée d'abord dans cette description, une façon d'honorer cette femme. Mais ils travaillent ensemble, hein, en binôme. Mais il y avait d'autres femmes qui sont mentionnées seules. Et on peut penser aussi à Philippiens 4, où deux femmes sont mentionnées comme étant des personnes qui collaboraient avec Paul dans l'œuvre de l'Évangile. Puis il y a des esclaves qui sont mentionnés. Des noms comme Amplias, Urbain, Hermas sont des noms qu'on a trouvés dans d'autres inscriptions pour des esclaves. Et d'autre part, des personnes très célèbres. Aristobule et Narcisse sont des personnages historiques de Rome qui avaient une certaine notoriété, et peut-être que ces personnes-là étaient décédées déjà, mais leur entourage est mentionné. Parmi leur entourage, leur grande maison et les personnes qui travaillaient pour eux, il y avait maintenant des chrétiens. Et puis il y a Rufus qui est mentionné au verset 13. Et alors c'est très intéressant parce que Rufus est mentionné dans l'évangile de Marc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un moment où Jésus porta sa croix pour monter la colline où il allait être crucifié. Il tressaillait sous cette croix. Et un homme dénommé Simon, Cyrène, a porté la croix à sa place. Et l'évangile de Marc rapporte que ce Simon était le père d'Alexandre et de Rufus. Pourquoi est-ce qu'il mentionnerait cela? Parce qu'en fait, jamais on a les prénoms des enfants dans les évangiles, c'est très inhabituel. Mais là, c'est clair qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait été connu par les destinataires de l'évangile de Marc. Et donc, on pense que c'est ce Rufus-là qui est salué ici à Rome. Alors, il y a des noms grecs, il y a des noms romains, et puis il y a aussi des personnes d'arrière-plan juifs, et ceux-là, ils sont mentionnés comme compatriotes de Paul. Et donc, il y a vraiment un mélange de ces personnes. Ces personnes sont toutes saluées individuellement, jusqu'au verset 16, où il dit quelque chose de général: saluez-vous tous les uns les autres par un saint baiser. Bien sûr, on pense à cela actuellement parce que nous ne pouvons pas nous saluer et nous ne pourrons pas non plus nous saluer de manière très proche physiquement, même lorsque le déconfinement aura lieu. Mais je pense qu'il est important de se saluer quand même lorsque nous pourrons nous voir. Vous savez qu'en Angleterre, les gens ne se font pas la bise, mais on peut regarder les gens dans les yeux et utiliser leur prénom et les saluer individuellement, même si on est à 1,5 m ou à 2,2 m, pour montrer qu'on a de l'affection pour eux et qu'on pense à eux. On ne veut pas simplement passer comme ça loin des autres en ne saluant pas, en ne disant même pas bonjour à quelqu'un qui est de l'Église. Alors Paul les voit comme travaillant, comme dans une équipe, une grande équipe, avec lui. Ils font équipe avec lui même si il n'est pas là auprès d'eux. Mais de son côté, il a une équipe à côté de lui qui sont mentionnées plus loin dans ce chapitre, versets 21 et suivants. Et je dois dire, je lui envie sa capacité de recrutement. Paul avait cette capacité de former des personnes, de les accompagner, d'être une sorte de coach pour eux et de les faire grandir dans le ministère. C'était vraiment quelqu'un qui savait former et recruter des personnes pour le ministère. Au verset 21, Timothée, qui est mentionné là, est son fidèle collaborateur. Alors, il avait passé 8 ans aux côtés de Paul à ce stade. Et Lucius, qui est mentionné au verset 21, il peut bien s'agir en fait de Luc, le docteur Luc, qui est mentionné aussi dans le livre des Actes, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, qui a suivi Paul de très près. Et puis il y a deux hommes d'origine juive, et le secrétaire fait un petit coucou au verset 22. Il dit: moi Tertius qui ai écrit cette lettre. Alors forcément c'est Paul qui a écrit la lettre, mais c'est lui qui l'a dictée. Et c'est Tertius qui était son scribe qui l'a écrit de ses mains. Alors Paul travaillait avec une équipe et il reconnaissait que dans la ville de Rome, il y avait beaucoup de personnes avec le même objectif. Ils voulaient faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc ils sont en Christ. Remarquez le nombre de fois dans ces versets où il les appelle des personnes qui sont en Christ, où il souligne qu'ils travaillent pour le Seigneur. Vous verrez cela à plusieurs points. Alors comment sont caractérisés ces amis de Paul? Ils sont caractérisés de trois manières. D'abord, je pense que c'est assez frappant qu'ils travaillent dur. Verset 4. Verset 3, c'est des collaborateurs. Ils ont été en train de travailler. Et verset 4, ils ont risqué leur tête pour Paul. Verset 6, Marie a beaucoup travaillé pour vous. Phébé, qui est mentionné là, est diaconesse. Alors c'est un mot particulier qui signifie qu'elle est en train de servir. Elle a un ministère. Le mot ministère et diaconie, en fait, c'est le même mot. Paul va utiliser le mot diacre pour se décrire lui-même. En 1 Timothée 4,6, il décrit Timothée comme étant diacre de Christ. Et en Éphésiens 3, 7, il se décrit comme diacre. C'est quand même un titre, peut-être qu'elle n'était pas diacre dans le sens que nous le comprenons, mais elle avait un ministère, en tout cas, cette femme Phébé, même si elle n'était pas ancien dans une église. Ça, c'est un autre mot qui n'est pas utilisé ici. Et puis, il y avait des personnes qui sont mentionnées comme étant estimées parmi les apôtres, verset 7. Alors, probablement, c'était des apôtres, dans un sens qu'ils étaient envoyés. Le mot apôtre signifie envoyé. Et donc, c'est ce que nous appellerons aujourd'hui des missionnaires. Donc, ils travaillent dur. Ils ont tous un rôle et ils sont investis dans le travail. Deuxièmement, ils sont bien aimés. Je pense qu'il y a une affection évidente qui se dégage de ce que Paul écrit. Il est possible, évidemment, de travailler, d'avoir des collègues, mais de ne pas aimer ceux avec qui on travaille. Peut-être que c'est votre cas, et c'est un sujet de prière. Mais dans l'Église, quand nous travaillons ensemble, eh bien, on grandit en amour, n'est-ce pas ? On grandit en appréciation pour les autres, en qui Dieu est aussi à l'œuvre. Ils sont bien aimés. Mais plus que ça, la troisième façon dont il est décrit montre qu'il les considère comme une famille. Paul est attaché à eux parce qu'il les considère comme faisant partie de sa famille. Il parle de Phébé comme notre sœur, au verset 1. Et ça, c'est une expression qui parle de proximité, mais aussi de pureté dans les relations. Paul n'avait pas l'habitude de prendre quelqu'un avec lui du sexe opposé. Il avait Timothée qui l'accompagnait, mais il ne serait pas approprié pour que l'apôtre Paul, célibataire, ait une femme qui l'accompagne dans ses voyages missionnaires. Non, il les considérait comme des sœurs et il les traitait de manière pure et avec une distance appropriée. Mais c'est quand même un terme affectif de l'appeler notre sœur. Et puis, il mentionne aussi notre frère, un de ces personnes qui est saluée au verset 23 est appelé le frère, et puis verset 17, il parle à ses frères. Je sais qu'aujourd'hui à Bruxelles, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mon frère !» Mais ici, c'est une réelle relation familiale, spirituelle, en Christ, parce que nous avons le même Père. Et puis, de manière encore plus frappante, au verset 13, il appelle quelqu'un sa mère. Alors, je ne pense pas que c'est la mère biologique de Paul, mais il est en train de dire qu'elle était comme une mère pour lui. Et ça, c'est vraiment un encouragement pour vous, si vous n'avez pas d'enfant, ou même si vous en avez, si vous êtes une femme, que vous pouvez être comme une mère pour quelqu'un. Et je sais qu'il y a des femmes qui ont été comme une mère pour moi, dans la foi. Et vous, comment vivez-vous cela ? Êtes-vous attaché aux autres croyants par des liens affectifs ? Il est tout juste possible que quelqu'un vive ce confinement avec un certain plaisir. Probablement pas la majorité, mais c'est possible que certains se disent « Ah, enfin, je peux être seul !» David Glashin, voilà un nom qui est apparu dans les informations, il vit sur une île déserte au nord de l'Australie depuis 1997. Sa femme était là avec lui, mais l'a quitté avec leur enfant pour le laisser seul depuis bientôt 12, 13, peut-être même plus d'années. Et aujourd'hui, il a 76 ans et il vit entièrement seul sur son île. C'est votre rêve, ça ? D'être tout à fait seul ? Peut-être que vous êtes le genre de personne qui dit « J'ai ma Bible, j'ai mon café, j'ai le Wi-Fi et donc je continue ma vie. » Sans être dérangé par les autres, par l'autre qui chante faux à côté de moi à l'église, ou l'autre qui requiert mon attention et mon temps. Non, c'est vrai que on peut penser que c'est plus facile d'être confiné qu'être hospitalier et attentionné envers les autres. Mais Dieu n'a jamais voulu que la vie humaine se vive dans des bulles, qu'on soit coupé comme ça les uns des autres. Adam, lorsqu'il était seul, ça n'allait pas. Il n'était pas bon qu'il soit seul. Dieu a voulu que nous soyons en communauté, que nous soyons dans des réseaux et dans cette famille chrétienne. Quand vous pensez aux autres chrétiens, avez-vous de l'estime pour eux à cause de leur travail pour le Seigneur? Pensez à ce qu'ils font. Quelqu'un qui est actif dans la mission, par exemple, ou dans l'encadrement de nos jeunes, ou ceux qui prennent soin des autres, ou ceux qui s'occupent des petits-enfants, est-ce que vous avez de l'estime pour eux? On devrait avoir de l'estime pour ceux qui travaillent pour le Seigneur. Et est-ce que vous les aimez? Qui pourriez-vous décrire, si vous devez mettre un prénom ici, comme vos bien-aimés dans le Seigneur à l'église locale? Est-ce qu'ils le savent? N'attendez pas que eux soient de bons amis envers vous, mais d'abord, est-ce que vous les aimez? Est-ce qu'ils savent que vous avez de l'affection pour eux? Et est-ce que vous les considérez comme votre famille? Oui, naturellement, ceux qui ont une vie familiale difficile vont être très réjouis d'avoir une famille chrétienne. Mais je pense maintenant à ceux qui ont une bonne vie familiale, qui sont très proches de leur famille biologique. Je dois souligner pour vous qu'il faut prendre soin des membres de notre famille biologique, certainement, mais il faut aussi considérer les membres de notre Église comme membres de notre famille. En Christ, nous sommes une famille. Ce n'est pas des mots en l'air, frère, sœur, mère. Et Paul dira même Timothée, son fils dans la foi. Des relations de proximité, des relations familiales. Et ça veut dire que il mérite aussi votre attention, ces personnes de l'Église, votre temps, votre accueil, votre hospitalité quand c'est possible. Et ne pas simplement penser à belle-mère et beau-frère et mon cousin et mes frères et sœurs biologiques. L'apôtre nous a montré en un coup d'œil un très bel exemple d'entraide, un esprit d'équipe et de coopération dans l'Église de Jésus-Christ. Et puis juste après, il y a un avertissement. Attention à ceux qui divisent. C'est une courte section, mais il veut vraiment marteler cela. Attention à ceux qui divisent. Nous avons besoin d'avertissement. Nous ne devons pas croire que l'Église va toujours être facile ou va toujours être édifiante. Nous devons faire attention. Verset 17. Attention, je vous supplie, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions. Font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Ils ne servent pas Christ. Et alors, est-ce qu'ils annoncent leur ambition en disant moi je ne veux pas servir Christ, vous savez, moi je suis non chrétien? Non. Ils ont des paroles trompeuses. Ça veut dire que par leurs paroles douces et flatteuses, ils arrivent à tromper des chrétiens. Je suis souvent choqué par le manque de discernement parmi les chrétiens. Je vous le dis franchement. C'est pas parce qu'un livre a Dieu dans le titre, sur la couverture, que tout est vrai dans le livre. C'est pareil pour les sites, pour les messages, pour les vidéos qui sont répandues. Tout ce qui se présente comme venant de l'Église ou de Dieu ou de la Bible n'est pas forcément de la Bible ou de Dieu. Si vous êtes un chrétien vraiment ouvert à tout et qui pense, vous pensez que tout est bon, je dois plutôt vous demander d'avoir du discernement. Est-ce que c'est biblique ou est-ce que c'est l'opposé? Quand vous entendez ce message que vous écoutez ou que vous regardez ou que vous consultez ou que vous lisez, est-ce que c'est biblique? Et la personne qui apporte ce message, est-ce qu'il ou elle sert Christ ou ses propres intérêts? Je désire que vous soyez sages, comme dirait Paul au verset 19. Je trouve cet écho dans mon cœur. Oui, votre obéissance est connue, je me réjouis à votre sujet, mais je désire que vous soyez sages. À ne pas penser que tout est bon, simplement parce qu'il y a une couverture ou un vernis chrétien. Mais à l'autre opposé, il y a aussi des personnes qui disent non à tout. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Il faut bien saisir le sens de cet avertissement au verset 17, de ceux qui provoquent des divisions. Ils s'opposent à l'enseignement que vous avez reçu. Alors, c'est quoi cette opposition à l'enseignement apostolique? C'est plus qu'une simple différence d'accent. Il y a toujours eu des chrétiens qui ont mis plus l'accent sur Dieu le Père ou sur Dieu le Saint-Esprit. Mais on peut se retrouver avec Jésus, le Fils de Dieu. On croit à la Trinité. Il y a des personnes qui mettent plus l'accent sur la souveraineté de Dieu et d'autres qui veulent plus souligner la responsabilité de l'homme. Mais on peut se retrouver dans l'aspect du salut. Il y a des chrétiens qui préfèrent la prière et d'autres qui préfèrent le chant. Mais ça, c'est juste une différence d'accent. La foi est la même. À d'autres moments, on va trouver des personnes qui même ont exprimé quelque chose par erreur. Mais ce n'est pas forcément grave. Une erreur de lecture ou d'interprétation ne nous conduit pas toujours à rejeter Christ quand même. Et c'est encore possible d'avoir une différence sur une question secondaire, sur le déroulement précis de la fin des temps, par exemple, ou sur les modalités du baptême. Les enseignements qui font trébucher, ce sont ceux qui sont beaucoup plus graves, qui nient l'autorité de la parole de Dieu, ou qui nient que Jésus est le seul qui sauve, ou qui est réellement le Fils de Dieu. Et ce sont pour ces grandes erreurs que nous devons dire, nous ne sommes pas d'accord. Là, on n'est pas d'accord. Mais si vous êtes de ceux qui ne sont jamais d'accord avec personne, qui pensent qu'il n'y a que vous qui avez raison, et que tous les autres ont toujours tort, sur tout, peut-être que vous faites partie du problème et pas de la solution. Peut-être que vous êtes de ceux qui divisent au lieu de construire. Et le fruit de la division est visible. Et parfois, quand vous regardez le ministère de quelqu'un, vous voyez que le fruit de son ministère a été la division là où il est passé. Et leur but, selon Paul, est leur propre ventre. Pas nécessairement qu'ils veulent manger plus, mais qu'ils se servent eux-mêmes, ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux et à leurs désirs. Donc John Stott écrit par rapport à cette ligne que lorsque nous sommes face à un enseignant, à un enseignement, on peut proposer trois tests. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça glorifie Christ? Est-ce que ça sert à promouvoir la bonté? Car le verset 19 dit: « Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. » Littéralement, soyez simple par rapport au mal. Dieu veut que nous soyons experts en bien et débutants concernant le mal. Développer cette expertise, si vous voulez, une sagesse par rapport à tout ce qui plaît à Dieu. Approfondissez cela. Mais soyez débutants, soyez ignorants par rapport au mal. Soyez débutant, j'ai aimé cette expression, par rapport au mal. Vous savez, être ignorant par rapport au mal est une bonne chose. L'innocence ne peut pas être retrouvée quand vous l'avez perdue. La corruption de l'humanité a commencé par la curiosité par rapport au mal. Il ne faut pas être au courant de tout. Je m'étonnais à un camp de jeunes adultes chrétiens d'entendre quelques-uns très enthousiastes pour une série populaire. Et un moniteur leur a posé la question: qu'est-ce que cette série a de bon? Et les jeunes avaient du mal à répondre. Et ils ont fini par dire, mais en fait, c'était une intrigue qui les intéressait. Alors, évidemment, nous ne sommes pas contre tout divertissement, mais il vaut parfois mieux ignorer les séries et ce qu'elles contiennent. Parfois, on peut voir déjà à l'introduction ou à la réputation, et on ne doit pas aller plus loin pour se renseigner. Ou on ne va pas se renseigner même sur ce qu'une expression veut dire, quand on sait que c'est quelque chose de mal. Ou ne pas savoir pourquoi telle ou telle personnalité est devenue célèbre. On peut être ignorant par rapport au mal. Ça ne nous fera pas de tort, au contraire, ça nous fera du bien. Et c'est ce que nous sommes appelés à être, ignorants du mal, mais expert dans ce qui est bien. Et puis cette formidable promesse au verset 20, je vais la relire. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Quel bien ça nous fait d'entendre cela, cette promesse. Le Dieu de la paix, en contraste avec le Dieu Mars, le Dieu de la guerre, adoré à Rome, le Dieu de la guerre n'a pas pu apporter la paix. Le Dieu de paix est celui qui amène la paix grâce au prince de la paix, Jésus-Christ. Et il va écraser Satan. Qu'est-ce que nous avons hâte de voir le jour où celui qui veut diviser l'Église, celui qui décourage et accuse les chrétiens, le tentateur, sera mise enfin complètement hors de combat. La première promesse de la Bible est qu'un fils humain sera celui qui écrasera Satan. Et Jésus est cet homme qui a triomphé à la croix et par sa résurrection. Mais, regardez ce verset, il nous inclut dans la victoire. Ce n'est pas le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous ses pieds, mais sous vos pieds, nos pieds, les chrétiens. Et Timothy Keller remarque, Satan souffre une défaite chaque fois que quelqu'un met sa foi en Christ, reçoit sa justice et échappe à l'enfer. Chaque fois qu'un chrétien obéit à Dieu son Père avec joie. Et chaque fois que le peuple de Dieu l'adore dans la foi et dans l'unité. Alors oui, il y a déjà des victoires. Mais bien sûr, de manière ultime, la victoire est à venir. Elle est à venir quand Christ reviendra. Mais si nous sommes avec Christ, nous partagerons sa victoire. Et justement, ça nous mène à la fin. La dernière chose, c'est de garder la fin en vue. Paul termine par un bouquet final qui regroupe beaucoup de thèmes de l'Épître aux Romains, et particulièrement la révélation et la réalisation. Regardez les versets 25 et 26. Conformément, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes. Les Écritures sont fiables. Et Paul a révélé, Dieu a révélé des choses. Les prophéties se sont réalisées, la Bible dit vrai. La première partie qui fait des promesses et la deuxième partie qui accomplit ces promesses confirme la véracité de celui qui a parlé. Et pour le Nouveau Testament, c'est encore plus facile à vérifier parce que ces choses sont plus récentes dans le temps. Il y a un détail intéressant au verset 23. Au verset 23, il est question d'Éraste, le trésorier de la ville, qui vous salue. Éraste, le trésorier de la ville. Pendant un temps, ce détail semblait trop dur à croire, qu'il y ait un trésorier de la ville qui a un rôle important à Corinthe et qui s'appelle Éraste, qui est un nom qui ressemble un peu à érotique. Jusqu'au jour où les archéologues ont trouvé un bloc de pierre portant cette inscription latine, signifiant « Éraste a posé ce pavage à ses frais en remerciement pour son élection ». Voilà un homme qui avait eu un poste de responsabilité dans la ville et s'est confirmé dans la pierre. Vous voyez, la Bible est fiable. Sur le plan historique, ce sont ceux qui ont douté de la Bible qui ont été confondus par l'archéologie. Pas ceux qui y ont mis leur confiance en la véracité de la Bible. Mais à quoi nous sert cette Bible que nous avons entre les mains? Elle nous sert à révéler Dieu et Christ. Elle nous annonce l'évangile de Paul. Il dit au verset 25, « Mon évangile, l'évangile que j'annonce, l'évangile de Paul est le même que l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Il y a un évangile qui dit la vérité sur Jésus et sur le salut qui est en Jésus seul. » Mais à quoi ça nous sert? Si Dieu s'est révélé en Christ, si l'évangile de Paul a été prêché, à quoi ça sert? Eh bien, verset 26, à atteindre toutes les nations et à les amener à l'obéissance de la foi, la vraie réponse au problème de notre péché, c'est la foi en Christ. Et alors, lorsqu'on met notre foi en Christ, on vient obéir, on décide d'obéir Christ, de le mettre à sa place comme Seigneur de notre vie et Maître. Et cela mène à la gloire de Dieu pour toujours, pour Jésus-Christ, et par ce qu'il a fait pour nous. Verset 27. Gardons la fin en vue. La fin n'est pas la fin de cette série en Romains. La fin n'est pas les deux prochains mois. La fin, c'est de répandre partout l'évangile jusqu'à ce que l'œuvre de Dieu sur terre soit finie. Et cela sert le plus grand but, la finalité de la gloire de Dieu. Et ça, c'est un but, une finalité beaucoup plus grand que nous, qui nous dépasse dans le temps, dans l'histoire et dans sa grandeur. Une Église, donc, qui est unie, qui aime et qui a du discernement, doit continuer à regarder vers l'avant, les siècles à venir, les siècles des siècles, et doit continuer à regarder vers l'extérieur, les nations qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle pour être sauvées. Si tout cela vous est maintenant bien familier, c'est parce que ça résume la lettre de Paul aux Romains. À la fin, il résume tous ses thèmes. C'est que vous avez bien écouté ces dernières semaines. Mais nous avons un rôle à jouer. Les individus mentionnés dans cette lettre avaient déjà une part à l'œuvre de Dieu. Ils n'étaient pas des spectateurs admiratifs. Ils étaient déjà en train d'évangéliser, d'édifier, d'encourager, d'obéir, de croire. Donc faites votre part. Mais je conclus avec cette idée. Paul écrivit cette lettre à distance. Il ne voyait pas ses destinataires. Il ne nous voyait pas. Et lorsque nous nous engageons pour Dieu, nous ne mesurons pas l'impact de ce que nous allons faire. Nous savons que ça commence, mais nous ne savons pas quel est l'impact final, l'impact éternel. Mais au moins nous savons que c'est en équipe que nous travaillons, pour le Seigneur et pour l'Évangile. Et c'est ce qui est motivant. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure dans la Bible, mais je vais prier maintenant pour l'obéissance de la foi de chaque auditeur et de chaque auditrice. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous avons du mal avec ce qui est invisible, du mal à croire ce que nous ne voyons pas. Parfois, nous aurions préféré vivre au temps des disciples pour avoir la facilité de remplacer la foi par la vue. Mais tu nous appelles à croire que tu es là, que l'Évangile est vrai, et que tous ceux qui se tournent vers toi, tous ceux qui prient sincèrement à Jésus, sont unis à toi pour toujours. Je te prie que nous puissions répondre par l'obéissance de la foi. Pas seulement pour commencer la vie chrétienne, mais pour continuer avec toi, à avoir un attachement sincère à ceux qui croient, à les considérer comme nos frères et sœurs en Christ, parce que c'est ce qu'ils sont. Et je te prie aussi que nous puissions avoir une attention et un discernement élevés pour pouvoir encourager ce qui est acceptable et nous éloigner de tout ce qui pourrait nous nuire. Tu connais nos luttes et nos difficultés, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Je te prie aussi que nous puissions garder la fin en vue, avoir cette perspective éternelle sur notre vie, à ce que nous allons apporter par notre vie, et pouvoir t'attribuer la gloire, l'honneur, la sagesse, la puissance, car tu es Dieu au siècle des siècles. Merci pour Jésus-Christ, qui est mort à la croix, ressuscité d'entre les morts et élevé à ta droite. Donne-nous de vaincre en comptant sur lui. Amen.